Le journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Silence et recueillement, 2 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis. Une commémoration qui met en évidence les blessures toujours à vif des victimes et les problèmes non résolus. Reportage de Sophie Delpont. Une facture de 10 milliards d'euros, mais pas de coupable désigné. L'inspection générale des finances attribue à des responsabilités plurielles l'invalidation de la taxe sur les dividendes par le Conseil constitutionnel. Analyse de Marie Viennot. 15 000 scientifiques nous préviennent. Il sera bientôt trop tard pour sauver la planète. Ils appellent l'humanité à changer radicalement de mode de vie. Le Venezuela au bord du défaut de paiement. Le pays se voit par ailleurs imposer des sanctions économiques par l'Union européenne. Nous irons à Bruxelles. Hommage aux 130 disparus, aux endeuillés, aux centaines de blessés et aussi aux autres victimes, celles dont les blessures sont invisibles. 2 ans après les attentats de Paris, Emmanuel Macron s'est rendu sur les lieux des attaques, le Stade de France, le Carillon et le Petit Cambodge, la Bonne Bière et Casa Nostra, le comptoir Voltaire, la Belle Équipe et le Bataclan. L'ancien président François Hollande était également présent. Cette commémoration était empreinte d'une grande émotion, Sophie Delpont, mais vous avez aussi mesuré l'ampleur des attentes des victimes.
Devant le Bataclan, les noms des 90 victimes sont énoncés un par un.
Stéphane Albertini, Nick Alexander.
Alexandra se recueille en regardant la plaque commémorative. Son frère, Gilles Leclerc, avait 32 ans quand il a été tué ici, dans la salle de concert. 2 ans après, elle a tenu à venir pour parler directement à Emmanuel Macron.
J'ai trouvé, à l'écoute. J'espère que l'écoute va maintenant apporter ses fruits et avoir des actes. Je lui ai demandé que l'État nous prenne en charge parce qu'il y a un dossier très particulier avec mes parents qui tenaient la boutique de fleurs avec mon frère et aujourd'hui cette boutique est fermée. Et moi aujourd'hui j'ai besoin d'un coup de pouce de l'État, d'un ministre, de quelqu'un qui nous écoute vraiment là-haut. Et on a l'impression d'être vraiment dans la solitude et abandonné.
Vous sentez qu'il y a, vous diriez, un mépris de la part du gouvernement par rapport aux victimes ?
Je ne sais pas si c'est un mépris, mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne veut plus en entendre parler déjà, quoi. Et qu'on a vraiment l'impression d'être oublié. Quand on en parle à nos clients, à nos amis, ils pensent qu'on est pris en charge et que tout va bien. Et non, rien ne va. C'est de pire en pire. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui prenne mes parents en charge parce que c'est le dossier important de la boutique aujourd'hui pour que ma mère puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, elle est au bord du précipice, quoi. Et j'ai peur pour elle aujourd'hui. J'ai perdu mon frère, je ne veux pas perdre mes parents.
Arthur Desnouveaux est le président de l'association de victimes Live for Paris qui a organisé un lâcher de ballon devant la mairie du 11e arrondissement. Ce matin, il n'a pas interpellé Emmanuel Macron ou François Hollande à propos des difficultés des familles des victimes. Ce n'était pas le moment selon lui.
On leur a pas demandé grand-chose parce qu'aujourd'hui c'est une journée de commémoration, c'est une journée de souvenirs et on les a remerciés d'être là parce qu'ils incarnent la France, ils incarnent le peuple français et ce que les victimes veulent, c'est qu'on se souvienne d'elles et qu'on se souvienne d'elles dans leurs individualités, que ce soit pas une masse et que l'État nous considère toujours 2 ans après les attentats.
Bruno Julliard est le premier adjoint à la mairie de Paris. À propos des problèmes de prise en charge, il renvoie la balle à l'exécutif.
Il appartient au gouvernement et à leurs représentants de répondre à ces questions, pas à la mairie de Paris.
La mairie de Paris n'est pas engagée là-dedans.
Elle est évidemment très engagée dans l'organisation des cérémonies et de l'ensemble des dispositifs de mémoire. Je pense notamment à l'archivage des plus de 7000 documents que nous avons archivés en lien avec les familles des victimes. En revanche, en ce qui concerne l'ensemble des indemnisations, c'est évidemment une politique d'État. Il ne m'appartient pas de commenter d'éventuelles défaillances du gouvernement.
Si plusieurs victimes ont reçu une accolade chaleureuse de la part du président de la République devant le Bataclan, une poignée d'entre elles n'a pas souhaité serrer la main d'Emmanuel Macron pour dénoncer les dysfonctionnements du fonds d'indemnisation et la suppression du secrétariat d'aide aux victimes.
Sophie Delpont avec François Rivalan pour les moyens techniques. Recrudescence de suicides chez les fonctionnaires de police et de gendarmes. 46 policiers et 16 gendarmes se sont donné la mort depuis le début de l'année. Après un pic en 2014, le nombre de suicides parmi les forces de l'ordre avait décru en 2015 et 2016. Il repart donc fortement à la hausse. Pour Laurent Mucchielli, sociologue spécialiste de la délinquance et des politiques de sécurité, une des explications est l'épuisement général des forces de l'ordre, épuisement lié à 2 ans d'état d'urgence, mais aussi à la fin d'un état de grâce dont ils ont bénéficié juste après les attentats.
Dans le contexte post-attentat, on se souvient, hein, ça provoque évidemment forcément chez nous tous des réflexes de cohésion au fond. Hein, et donc également, ça inclut complètement les policiers, les gendarmes, on se souvient des scènes, ils étaient applaudis, etc. Bon, donc par définition, c'est de courte durée. La profession de policier, c'est une profession où presque par définition, en tout cas vu la façon dont ça fonctionne en France, hein, c'est pas le cas dans tous les pays, ça provoque forcément ce que j'appelle moi, une souffrance professionnelle typique du policier, qui est le sentiment que finalement, il est pris entre deux feux au fond, c'est-à-dire qu'il n'est reconnu ni d'un côté par sa hiérarchie, le pouvoir politique dont il a l'impression qu'il l'instrumentalise en réalité, et de l'autre côté, il a l'impression qu'il n'est pas non plus reconnu par la population, alors qu'il a l'impression de faire son métier au nom et pour la protection de cette même population. Donc il se sent comme ça pris entre deux feux et reconnu ni en amont ni en aval, en quelque sorte. Oui, une fois qu'on a passé l'espèce de mini-état de grâce là, de la période post-attentat, ben, on est revenu en fait à la situation ordinaire, qui est que la police telle qu'elle est faite en France provoque une insatisfaction chronique de la population et provoque par ailleurs régulièrement dans certains quartiers des bavures qui de temps en temps sont médiatisées, ce qui renvoie évidemment une image tout à fait déplorable de la police.
Laurent Mekili répondait à Valentine Joubin. Emmanuel Macron veut montrer qu'il n'a pas oublié les banlieues. Le chef de l'État s'est rendu cet après-midi à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Il sera ce soir à Lille et demain à Roubaix-Tourcoing, des déplacements consacrés à la politique de la ville. Claire Chaudière, vous êtes allée à la rencontre d'habitants de Roubaix.
Mohamed Zeroali, 21 ans, adolescence passée dans les quartiers nord de Roubaix où il a fixé le rendez-vous.
Juste en face du parc du Nouveau Monde.
Raconte avoir suivi avec attention les premiers pas d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Pas vraiment le chouchou des banlieues, mais tout de même.
Il n'avait pas une image si négative que ça, quelqu'un de jeune, de nouveau. Quelques mois plus tard, c'est une catastrophe en fait. Il y a les dotations qui ont été baissées. J'ai des potes qui étaient en emploi aidé, ça a été arrêté. Ils se sentent abandonnés. On se pose des questions par rapport à l'avenir.
L'avenir de tout un tissu social sur des territoires d'une extrême fragilité. Géré à coup de calculatrice, lâche amer Christian Lazaoui et Ali Rani, deux figures du monde associatif roubaisien.
On prend un stylo, on barre des chiffres, mais on ne regarde pas ce qu'il y a derrière ces chiffres. On a perdu près de 40% des postes dans le fonctionnement de notre association dans les deux derniers mois.
C'est un plan social qui est en train de se passer en silence. Plan social des banlieues, plan social silencieux. La suppression du ministère de la ville, je pense que c'est déjà une belle boulette. Puis après, il y a quelque chose qui reste quand même bien ancré dans la société, c'est la discrimination liée à l'origine. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le défenseur des droits, le CNRS. Ça, c'est une vraie question. En termes de politique publique, qu'est-ce qu'on fait sur les questions de discrimination? Bienvenue à Roubaix. Hein.
Roubaix, où il en faudra des bonnes nouvelles et du talent pour convaincre, ajoute très sceptique ces deux quarantenaires. Compliqué effectivement, mais pas impossible pour le jeune Mohamed, bien décidé de lui attendre l'oreille.
Après le scandale Weinstein aux États-Unis, la parole des femmes s'est libérée et pas seulement sur les réseaux sociaux. Au cours du mois qui vient de s'écouler, la gendarmerie a recensé 30% de dépositions supplémentaires par rapport à la même période l'an dernier. Ce sont en particulier les habitantes des petites villes et des campagnes qui sont venues porter plainte au commissariat. Pour encourager les femmes victimes de violences sexuelles à faire valoir leurs droits, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, envisage maintenant de mettre en place un système de pré-plainte en ligne, une piste jugée intéressante par Anne-Cécile Melfer, la présidente de la Fondation des Femmes.
Tout ce qui peut permettre de faciliter l'accès à la justice des femmes victimes de violences va dans le bon sens. On a vraiment du travail à faire là-dessus en France. Il y a encore trop d'obstacles à la justice pour les femmes qui sont victimes de violences. Donc si on peut effectivement travailler à des pré-plaintes par exemple, ça peut être un sujet intéressant sur lequel nous on est tout à fait d'accord pour collaborer d'ailleurs avec les pouvoirs publics et imaginer des solutions innovantes qui facilitent l'accès des femmes à la justice. Et il y a des choses qui peuvent être faites quand même avec les moyens qui existent déjà, ne serait-ce que mieux recevoir les femmes dans les commissariats, mieux recevoir les femmes au niveau de la police ou dans les commissariats. Ça coûte pas plus cher de le faire correctement et convenablement. Par contre, ça demande de la formation des professionnels. Ce que montre ces plus 30%, c'est quoi? C'est que effectivement, si on donne une impulsion importante sur le sujet des violences faites aux femmes, on voit que les choses, elles changent. Non, c'est pas une fatalité qu'il n'y ait que 10% des femmes qui sont victimes de viols, qui portent plainte. En fait, elles peuvent être beaucoup plus nombreuses. Mais pour ça, il faut une vraie impulsion.
Anne-Cécile Melfer de la Fondation des Femmes, jointe par Anne Fauquemberg. La taxe sur les dividendes, une erreur qui coûte cher, mais l'inspection générale des finances refuse de désigner un coupable. Le mois dernier, cette taxe a été invalidée par le Conseil constitutionnel, ce qui contraint l'État à rembourser près de 10 milliards d'euros, principalement aux grandes entreprises. L'IGF vient de rendre son rapport sur les responsabilités ayant abouti à faire voter cette taxe sur les dividendes en 2012. Vous l'avez lu, Marie Viennot. Et ce que dit l'IGF, c'est qu'il y a eu un concours de circonstances exceptionnelles et des responsabilités plurielles.
Oui, Oui, ce rapport ne pointe pas de responsabilité personnelle. C'est un peu la banalité d'un mal français qui est décrite. Et ce mal, c'est la difficulté à élaborer des normes dans un monde complexe. Le déroulé qui a conduit à la mise en place et au maintien de cette taxe sur les dividendes se comprend, écrit l'Inspection générale des finances. Il n'y a pas de défaillance de l'organisation, des processus ou de leur mise en œuvre. Pas de défaillance non plus de motivation des autorités politiques. Les causes sont ailleurs, écrit l'Inspection générale des finances. D'abord, il y a un concours de circonstances extraordinaires, des nouveautés jurisprudentielles côté européen et le choix du Conseil constitutionnel d'annuler toute la taxe d'autre part. Ensuite, il y a, je cite, la chronique ordinaire des défauts français d'élaboration de la norme, la construction trop rapide, l'entre-soi. Difficile de blâmer quelqu'un en particulier, d'autant plus, dernière cause, qu'il y a des défauts systémiques d'ordre politique ou institutionnel. Alors systémique, ça veut dire que c'est profond. Et ce système, c'est, écrit le rapport, la combinaison des règles européennes et des règles constitutionnelles qui conduit à un rétrécissement de la souveraineté fiscale et il y a une fragilisation de la sécurité juridique. L'Inspection générale des finances fait des propositions pour limiter ce risque, dont Bruno Le Maire, qui s'exprimait cet après-midi à l'Assemblée nationale, a dit vouloir s'emparer. Il y a 10 jours, le ministre des Finances avait parlé de scandale d'État à propos de cette taxe, mais de scandale, l'Inspection générale des finances donc ne trouve pas. Voilà la polémique sur les responsabilités d'un tel ou d'un tel enterré en 47 pages. Celle qui les a rédigées, la chef du service de l'Inspection générale des finances, note quand même en préambule être en conflit d'intérêts car elle était directrice de la législation fiscale de la période qu'elle a dû analyser. Mais rassurez-vous, des processus de lecture interne ont été renforcés pour éviter tout biais, c'est écrit.
Et donc pour l'État, cette facture de presque 10 milliards d'euros. Merci Marie Viennot. Le ministre de l'Éducation nationale entame ses consultations pour réformer le baccalauréat. Tous les acteurs de la communauté éducative seront mis à contribution et des annonces doivent être faites en février. Le bac est arrivé à la fin d'une époque, constate Jean-Michel Blanquer dans un entretien au Parisien. Il souhaite en finir avec le bachotage et redonner du sens à cet examen. La réforme a pour but d'aboutir à 4 épreuves finales, les autres notes étant obtenues au cours de la scolarité. Le ministre souhaite aussi que l'apprentissage soit proposé plus systématiquement aux élèves. Stéphane Crochet, secrétaire général de l'UNSA Éducation, est plutôt sceptique. Il l'a dit à Hakim Kasmi.
Ça fait des années, des décennies que les gouvernements successifs, quels qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, souhaitent relancer l'apprentissage et l'apprentissage tôt. Or, si l'apprentissage ne fonctionne pas dans notre pays, ou en tout cas s'il ne fonctionne pas chez les élèves les plus jeunes, c'est parce que les entreprises ne sont pas demandeuses de ces élèves jeunes. Les entreprises souhaitent développer l'apprentissage, mais la plupart du temps dans le post-bac.
Toutes les formations que l'on a dans la filière professionnelle bac pro ne sont pas forcément adaptables pour être en alternance dès le plus jeune âge.
Pour nous, la bonne solution, c'est bien d'être à l'intérieur du lycée professionnel, avec des parcours qui aujourd'hui savent être très ouverts et très mixtes, avec beaucoup de périodes de stage en entreprise. Mais c'est pas pareil de faire un stage en entreprise que d'être en contrat d'apprentissage dans l'entreprise. On est sur une démarche différente. Le lycée professionnel, aujourd'hui, c'est varier et multiplier les parcours pour intéresser le jeune et l'amener à acquérir les compétences d'un bac professionnel. Consolidons la voie professionnelle à l'intérieur du lycée professionnel et l'apprentissage qui est aujourd'hui un vrai levier de réussite, laissons-le tel qu'il est en train de se développer ou aidons-le même à se développer dans le post-bac, que l'on soit en BTS, en IUT ou même à l'université.
Stéphane Crochet de l'UNSA Éducation. Et puis le gouvernement prépare une réforme visant à améliorer les dispositifs d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle est prévue pour le premier semestre 2018. C'est une annonce conjointe de la ministre du Travail et de la secrétaire d'État en charge du handicap au premier jour de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Il est plus que temps de changer de mode de vie. Après avoir lancé des alertes successives en ordre dispersé, des scientifiques du monde entier se sont rassemblés dans l'espoir d'être cette fois mieux entendus. Ils sont 15 000, issus de 184 pays, à se mobiliser. Ça ne s'était pas vu depuis le premier sommet de la Terre de Rio en 1992. Et ils lancent ensemble un appel à l'humanité. Bonsoir Véronique Reberotte.
Bonsoir.
Leur message, les émissions mondiales de CO2 vont encore atteindre un nouveau niveau record cette année. Et à force de réchauffer la planète, eh bien, il sera bientôt trop tard.
Oui, alors malgré les records climatiques que l'on a connus ces dernières années, années les plus chaudes, phénomènes climatiques d'ampleur, incendies géants dus à la sécheresse ou encore cyclones comme Irma avec des rafales de vent de près de 400 km/h, on espérait quand même que les émissions de CO2 étaient enfin stabilisées. 3 ans que la durée, 2014, 2015, 2016, les émissions de CO2 n'ont pratiquement pas bougé, laissant penser que la décarbonisation de nos économies mondiales avait commencé, que le monde avait atteint son pic d'émissions de gaz à effet de serre avant d'amorcer une baisse. Déception, écrivent les auteurs de cette nouvelle étude, réalisée par des scientifiques donc du monde entier. Les émissions de CO2 repartent à la hausse avec un principal responsable, la Chine. La Chine, elle seule, génère 28% des gaz à effet de serre. Ces dernières années, elle avait permis d'améliorer en fait la situation du climat en réduisant son recours au charbon. Or, récemment, sa consommation de charbon a repris, tirée sous l'effet du boom de sa production industrielle et une diminution aussi de sa production d'hydroélectricité. Le charbon a remplacé l'hydraulique en panne à cause de sécheresses répétées dans le pays. Responsable aussi de cette augmentation d'émissions, les États-Unis, deuxième pollueur au monde, qui voit sa consommation là aussi de charbon en hausse. Washington aussi, depuis l'élection de Donald Trump, ne se sent plus vraiment, il faut dire, concerné par le climat. Alors avant le début de la COP23 qui se tient en ce moment à Bonn, une autre synthèse scientifique venait alerter sur l'insuffisance des engagements pris durant l'accord de Paris, donc fin 2015, pour contenir le réchauffement de la planète sous la barre des 2 degrés d'ici la fin du siècle. Cette alerte solennelle, donc signée par 15 000 scientifiques, c'est presque du jamais vu, c'est arrivé une seule fois, pour dire qu'il sera bientôt trop tard, eh bien elle devrait logiquement ne laisser personne indifférent, à part peut-être Donald Trump.
Merci Véronique Rebérotte. Partir ou mourir, c'est le nouveau rapport d'Amnesty International sur la guerre en Syrie. L'ONG accuse le gouvernement de Damas d'avoir mis en œuvre une stratégie qui s'apparente à des crimes contre l'humanité, à savoir obliger la population à se rendre ou la faire mourir de faim en assiégeant les villes et en interdisant l'aide et l'assistance humanitaire. Les précisions de Nina Walsh d'Amnesty International au micro de Nadine Epstein.
Nous avons enquêté sur cette stratégie du gouvernement syrien qui on peut aussi résumer par détruire, affamer, déplacer. C'est-à-dire qu'il y a une véritable stratégie d'assiégement, d'attaque incessante contre les civils et des déplacements forcés qui ont abouti dans le déplacement des milliers de civils suite aux accords de réconciliation qui ont été conclus entre le gouvernement syrien et les groupes armés d'opposition. Le gouvernement bloque ou restreint arbitrairement l'accès aux produits de première nécessité. C'est comme ça qu'on avait des villes qui pendant 3 ou 4 ans en étaient sous siège, où la population, nous avons recueilli des témoignages horribles, ils ont souffert énormément. Des bébés qui meurent de dénutrition ou alors des patients qui meurent alors qu'ils ont des maladies parfaitement soignables. À un moment donné, les médecins nous ont raconté, ils n'avaient plus d'appareil de dialyse et donc les patients sont morts sous leurs yeux. Et il faut aussi rappeler qu'il y a encore en Syrie plus de 500 000 personnes aujourd'hui qui vivent sous sont assiégées.
Amnesty International accuse dans une moindre mesure les groupes armés d'opposition d'agir de la même sorte.
Oui, il y a les groupes d'opposition qui ont assiégé par exemple Kefraya et Fouak. Ils ont aussi confisqué l'aide humanitaire, ils ont aussi bombardé de façon indiscriminée les civils dans ces villes-là. Tout ça, on pourrait le qualifier de crime de guerre parce qu'en fait, la différence, c'est que le gouvernement syrien mène ses attaques de façon tellement systématique et de grande ampleur que là, on peut les qualifier de crimes contre l'humanité.
Nina Walsh d'Amnesty International. Aujourd'hui, au moins 21 civils ont été tués dans des raids aériens contre un marché d'une localité rebelle, Atareb, dans une zone de désescalade du nord de la Syrie. À la suite de Paris et de Berlin, l'Union européenne demande qu'il n'y ait aucune interférence extérieure au Liban. Après la démission du Premier ministre Saad Hariri, l'Europe craint que le pays ne devienne le jouet de ses voisins. Le Liban risque de retomber dans de graves confrontations politiques et peut-être militaires, déclare le ministre allemand des Affaires étrangères. Nous avons en particulier besoin du retour du Premier ministre actuel, d'une réconciliation dans le pays et d'empêcher une influence de l'extérieur, insiste Sigmar Gabriel. Le défaut de paiement, c'est la menace qui plane sur le Venezuela, déjà fragilisé par une profonde crise économique et politique. 2 réunions aujourd'hui, l'une à Caracas, l'autre à New York, pourraient faire basculer le pays, et ce, quoi qu'en dise le président Nicolas Maduro. Le Venezuela qui vient par ailleurs de se voir infliger des sanctions économiques par l'Union européenne. Explication de Johanna Hochstein à Bruxelles.
Un avertissement à l'encontre de Nicolas Maduro pour inciter le président vénézuélien à entamer un dialogue avec l'opposition. C'est ainsi qu'il faut analyser les sanctions annoncées aujourd'hui par les 28. Il s'agit d'un embargo sur les armes et sur les matériaux connexes qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins de répression, peut-on lire dans les conclusions de la réunion. Le principe de ces sanctions avait déjà été acté la semaine dernière par les ambassadeurs de l'UE après les élections régionales du 15 octobre, marquées par de nombreuses irrégularités, insistent les Européens. En revanche, pas de sanctions ciblées à l'encontre de personnalités ou d'entités économiques soupçonnées de non-respect des principes démocratiques ou de violation des droits de l'homme. Pas de sanctions pour le moment, précise-t-on à Bruxelles. Cette nouvelle salve de mesures pourrait être adoptée dans un second temps si la situation sur le terrain venait à se détériorer davantage. Les Européens appellent une nouvelle fois les différentes parties au dialogue, comme ils l'avaient déjà martelé en octobre au Parlement européen. Les eurodéputés décernaient alors le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit à l'opposition vénézuélienne.
Le temps restera gris demain sur le nord-est avec parfois de faibles pluies, ciel bleu mais avec du vent des Alpes au Languedoc-Roussillon, temps variable ailleurs. Les températures maximales atteindront 6 à 12 degrés, 13 à 16 en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.